Chapitre 8. C'était au printemps de l'an 4. Le bruit de grandes victoires en Italie commençait à se répandre, mais on s'inquiétait beaucoup plus chez nous des armées de Sambre et Meuse, et de Rhin et Moselle, sur le point d'entrer en campagne, que des affaires d'Italie. Qu'est-ce que faisait à la République de savoir 60 et même 80 000 Autrichiens de l'autre côté des Alpes, puisque, avec 20 000 hommes postés dans la montagne, nous les empêchions d'entrer en France. Nous devions en être contents. Pour garder ce pays, ils perdaient un bon tiers de leurs forces. Au contraire, en allant les attaquer, nous étions tenus d'y mettre autant de monde qu'eux, de dégarnir les côtes de Brest, de Cherbourg, les frontières des Pyrénées, celles même du nord et de l'est, ce qu'il a bien fallu faire plus tard. Une seule grande bataille perdue sur le Rhin culbutait la République. Les hommes de bon sens le voyaient. Malgré cela, ces victoires, coup sur coup, étonnaient le monde. C'est en lisant la lettre de Maresco que notre étonnement redoubla, car mon beau-frère, comme tous les gens de son pays, n'avait ni règle ni mesure. Il avait écrit en tête la proclamation de Bonaparte. « Soldats, vous êtes mal nourris et presque nus. » Le gouvernement vous doit beaucoup et ne peut rien pour vous. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire, richesse. Soldats, manqueriez-vous de courage ? Après cela, le gueux se mettait à chanter, victoire sur victoire, à Montenotte, Millesimo, Dego, Mondovi. Je croyais l'entendre. Il ne parlait pas, il criait, il dansait, comme à la naissance de Cassius. La fusillade, l'incendie, rien ne lui faisait. Happé, happé, voilà son affaire. Et de temps en temps, il s'arrêtait pour dire qu'il n'existait qu'un général sur terre, le général Bonaparte. Que tous les autres n'étaient que des mazettes auprès de lui. Kléber, Marceau, Hoche, Jourdan, que tous ne lui montait pas à la hauteur du talon. Il ne reconnaissait plus, après Bonaparte, que Masséna, Larpe, Augereau et quelques autres de l'armée d'Italie. Ensuite, il recommençait, en mêlant à ces choses les bonnes prises qu'il avait déjà faites. La satisfaction de Lisbeth, la bonne mine de Cassius. En faisant sonner, comme des cymbales, tous ces noms nouveaux, de la Bormida, de Charesco, de Seva, etc., qu'on n'avait jamais entendu. Toute ma vie, je me rappellerai la figure du père Chauvel en lisant cette lettre à notre petit bureau dans la bibliothèque. Il serrait les lèvres, il fronçait les sourcils, et puis un instant devenait rêveur et regardait devant lui. Les proclamations de Bonaparte surtout l'arrêtaient. Il les relisait presque haut. Quand Maresco s'écria que Bonaparte était un petit homme de 2 pouces, plus grand que Kléber avec ses 6 pieds, Chauvel sourit et dit tout bas « Il ne compte pas la hauteur du cœur, ton beau-frère. Le cœur tient aussi de la place et contribue à la taille. Je l'ai vu, Bonaparte. Nous nous connaissons. » Maresco finit cette grande lettre en disant que, de l'endroit où campait son bataillon, il voyait toute la Lombardie avec ses rizières, ses fleuves, ses villes, ses villages, et dans le fond, à plus de 100 lieues, les cimes des Alpes toutes blanches. Il dit que tout était à eux, qu'ils allaient tout envahir, que l'être suprême avait tout fait pour les braves. Il m'engageait à revenir, me prévenant que l'avancement marcherait vite, que les rations ne seraient plus en retard, ni la paye, ni rien. Enfin, l'avidité des rapineurs. Lisbeth, qui ne savait ni A ni B, s'était sans doute fait lire cette lettre, car elle avait mis au bas 5 ou 6 croix, comme pour signifier « C'est vrai. Voilà ce que je pense. Vive la joie, les batailles, l'avancement. Il faut que nous ayons tout, que nous agrafions tout et que je devienne princesse. » Cette lettre fut cause d'un grand mouvement dans le pays. Je l'avais prêtée à Maître Jean. Maître Jean la prêta le lendemain à d'autres. Elle allait partout, et partout on disait « Bonaparte est un jacobin, un ancien ami de Robespierre. Il a mitraillé les royalistes en Vendémiaire. Il va remettre les droits de l'homme au pinacle. » Chaque jour, nous entendions répéter les mêmes choses. Notre ancien club de la place d'armes s'était rouvert après Thermidor, et depuis quelques mois, les vieilles bourriques attachées au ci-devant cardinal de Rohan, à l'ancienne gabelle, à la perception des dîmes, faisaient là leur motion pour le rappel des émigrés, pour les indemnités dues au couvent, et d'autres choses pareilles. Pas un homme de bon sens n'allait les entendre. Ils étaient forcés de prêcher pour eux seuls, ce qui les ennuyait beaucoup. Mais quelques jours après la lettre de Marescot, un vendredi, les patriotes, arrivés au marché de grains et de légumes, envahirent le club. Elof Collin avait écrit un long discours. Maître Jean Leroux voulait faire signer une adresse à l'armée d'Italie et voter des remerciements à son général en chef, le citoyen Bonaparte. Et tout à coup, le père Chauvel mit sa carmagnole. Il prit sa casquette et sortit vers 11 heures pendant la vente. Nous ne savions ce qu'il était devenu quand nous entendîmes une grande rumeur sur la place. Je regardais de notre porte. Chauvel revenait, suivi d'une foule de canailles qui l'accablaient d'injures, qui le bousculaient et l'auraient même frappé s'il n'était pas entré dans le corps de garde sous la voûte de la mairie. Naturellement, je courus à son secours. Il était pâle comme un mort et frémissait, criant d'une voix de commandement à l'officier de garde. « Écartez ces misérables, ces lâches qui se jettent sur un vieillard! Je me place sous votre protection !» Plusieurs hommes du poste sortirent à sa rencontre. J'étais indigné de ne voir ni Maître Jean, ni Raphaël Manque, ni Collin, ni personne autour de lui pour le défendre. Il venait de prononcer un discours furieux contre cette espèce de patriote sans principe, qui se mette toujours du côté de la force, qui crie victoire avec les vainqueurs et se jette sous les pieds tantôt d'un Lafayette, tantôt d'un Dumouriez, tantôt d'un Bonaparte pour avoir part au gâteau. Contre ces espèces d'êtres qui n'ont pas de conviction et placent leur intérêt, leur égoïsme au-dessus de la justice et du droit. Il avait attaqué la proclamation de Bonaparte, que tout le monde trouvait sublime, disant que Schinderhannes n'en aurait pas fait d'autre à ses bandits. Qu'il leur aurait dit « Vous aimez le bon vin, les beaux habits, les jolies filles. Personne ne veut vous faire crédit, la caisse est vide. Eh bien venez, je connais une bonne ferme en Alsace, où les gens ont travaillé, économisé depuis 100 ans de père en fils. Nous allons tomber dessus et la piller. » Est-ce que vous manqueriez de courage ? Alors, la fureur avait tellement éclaté contre lui que le gros Schlatter, le bûcheron de Saint-Vite, avait été le prendre au collet dans la chair, et que, sans la force de Chauvel, qui malgré sa petite taille avait des bras de fer, il l'aurait précipité sur le pavé. Schlatter avait trouvé son homme, mais Chauvel, voyant que pas un ami ne venait le soutenir, était descendu tout déchiré. C'est au milieu des coups de poing, des bousculades et des insultes qu'il avait gagné la porte et traversé la place. Je me souviens que, du haut des marches de la mairie, ses cheveux gris, arrachés, et l'une de ses joues couvertes de sang, il se retourna, criant d'une voix terrible aux femmes qui le poursuivaient. « Attendez, attendez! Vos enfants paieront pour vous! C'est avec leur chair et leur sang qu'on rétablira des rois! » Vous pleurerez, misérable, vous redemanderez la liberté, l'égalité. Vous aurez des maîtres comme il vous en faut, et vous penserez à Chauvel. Tais-toi, bête, tais-toi, Marat, lui criaient ces malheureuses. Il entra dans le corps de garde. Moi, je n'avais plus une goutte de sang. Il s'assit sur un banc et s'essuya la joue avec un mouchoir, en demandant un peu d'eau que les soldats lui donnèrent dans le bidon. « Va tranquillement à la maison, Michel, » me dit-il. « Tout ceci n'est rien. Nous en verrons bien d'autres. Marguerite pourrait être inquiète. La mauvaise race pourrait aussi casser nos vitres et piller la boutique. Maintenant que c'est la mode et que tout est de bonne prise, » fit-il en souriant avec amertume. « Ce ne serait pas étonnant. » J'allais partir lorsque Marguerite toute pâle arriva, l'enfant sur le bras. C'est la première fois que je la vis sangloter, car elle avait beaucoup de courage. Le père Chauvel s'attendrit aussi 2 minutes. « Ce n'est pas nous, » dit-il, « qui sommes à plaindre. Ce sont ces malheureux, élevés dans l'admiration de la violence. » Ensuite, il me donna l'enfant. Il prit le bras de sa fille et nous partîmes ensemble par la porte qui donnait sur la halle. Un piquet de soldats nous entourait, mais grâce à Dieu, la foule était déjà dissipée. Elle n'était pas entrée chez nous. Le seul ami que nous rencontrâmes à la maison, ce fut le curé Christophe. Il avait eu l'idée, comme Chauvel, qu'on viendrait nous piller et se tenait là, sur la porte avec sa grosse trique. Lorsque nous arrivâmes, il étendit les bras en s'écriant « Chauvel, il faut que je vous embrasse. Ce que vous avez dit est selon mon cœur. Malheureusement, j'étais dans l'autre allée. Je n'ai pas pu vous soutenir. » « Cela vaut mieux, » dit Chauvel. « À la moindre résistance, les gueux nous auraient assommés. Voilà pourtant ceux qui m'ont nommé deux fois leur représentant, » dit-il ensuite d'un air de pitié. « J'ai rempli mon devoir avec conscience. Qu'ils en choisissent maintenant un autre. Cela ne m'empêchera pas de dire toujours ce que je pense sur ce Bonaparte, qui ne parle ni de vertu, ni de liberté, ni d'égalité dans ses proclamations, mais de plaine fertile, d'honneur et de richesse. » Le père Chauvel était si maltraité qu'il en garda le lit plus de 8 jours. Marguerite le soignait. Moi, j'allais le voir toutes les heures. Il ne finissait pas de plaindre le peuple. « Les malheureux veulent pourtant la République, » disait-il. « Seulement, comme les royalistes et les gros bourgeois se sont rendus maîtres de tout, comme ils ont mis le peuple hors de la Constitution, la grande masse n'a plus de chef. Elle met son espérance dans les armées. Le mois dernier, c'était Jourdan qui devait tout sauver. Après Jourdan, Hoche. Après Hoche, Moreau. Maintenant, c'est Bonaparte. » Alors il parlait de Bonaparte, simple général de brigade, commandant l'artillerie à l'armée d'Italie en 1794. Il racontait que cet homme petit, brun sec, les mâchoires avancées, les yeux clairs et le teint pâle, ne ressemblait à personne, que l'impatience d'être en sous-ordre se voyait dans ses yeux, qu'il n'obéissait aux représentants du peuple qu'avec indignation et n'avait qu'un seul ami, Robespierre jeune, espérant bientôt se rapprocher de Robespierre l'aîné. Mais qu'après la débâcle de Thermidor, il s'était attaché bien vite à Barras, le bourreau de son ami. « Je l'ai vu, » disait-il, « le 12 Vendémiaire à Paris, après la destitution de Menou, qui s'était montré trop faible contre les bourgeois révoltés. Barras le fit appeler aux Tuileries, même, et lui proposa de se charger de l'affaire en second. » C'était dans une grande salle servant de vestibule à la Convention. Bonaparte demanda 20 minutes de réflexion. Il s'appuya le dos au mur, la tête penchée, les cheveux pendant sur la figure, les mains croisées sur le dos. Je le regardais au milieu de ce grand tumulte des représentants et des étrangers, allant, venant, se parlant, se rapportant les nouvelles. Il ne bougeait pas. Et ce n'est pas à son plan d'attaque qu'il pensait, Michel. Son plan était à faire sur le terrain. Il se demandait « Est-ce que cette affaire peut m'être utile ?» Il se répondait « C'est fameux. La guerre est entre les royalistes et les jacobins. Je me moque autant des uns que des autres. Les royalistes constitutionnels ont derrière eux les bourgeois. Les jacobins ont derrière eux le peuple. » Mais comme les bourgeois de Paris font une fausse manœuvre en se soulevant contre l'acte additionnel et la réélection des 2/3 acceptée par la province, comme ils forcent la majorité à se retirer ou de les remettre à la raison, dans tous les cas, je n'ai rien à perdre et tout à gagner. Je vais armer les jacobins des faubourgs qui me regarderont comme un des leurs et j'aurai suivi les ordres de la majorité en mitraillant les révoltés. Barras, un imbécile auquel je laisserai toute la gloire, demandera pour moi quelques bons postes, un commandement supérieur, et je lui grimperai sur le dos. Voilà, Michel, j'en suis sûr, ce qu'il se disait, car pour le reste, il n'avait pas besoin de réfléchir. Il n'attendit même pas la fin des 20 minutes et vint déclarer brusquement qu'il acceptait. 1 heure après, tous les ordres étaient partis. Pendant la nuit, les canons arrivèrent, les sections furent armées. Le lendemain, à 4 heures, les canons se trouvaient en position, les mèches allumées. À 5 heures, l'affaire s'engageait. À 9, tout était fini. Bonaparte obtint aussi sa récompense. Il passa général de la division, et Barra, nommé depuis directeur, lui fit épouser une de ses amies, Joséphine Beauharnais, et lui donna le commandement de l'armée d'Italie. Bonaparte est beaucoup trop fin et trop ambitieux pour se déclarer contre le peuple avec les constitutionnels. Nos autres généraux manquent de nerfs, ils veulent tout ménager. On ne sait ce qu'ils sont. Ils obéissent, lui se déclare jacobin et fait ses traités tout seul. Il envoie de l'argent, des drapeaux et des tableaux à Paris. Je ne connais pas d'être plus dangereux. S'il continue de remporter des victoires, tout le peuple sera de son côté. Les bourgeois égoïstes, au lieu de marcher à la tête de notre révolution, seront à la queue. Le peuple, qu'ils ont dépouillé de son droit de vote et qu'ils veulent gouverner avec un roi constitutionnel, les regardera comme ses premiers ennemis. Il aimera mieux se faire soldat de Bonaparte que valet de quelques rusés compères qui s'efforcent d'escamoter ses droits l'un après l'autre et veulent qu'un grand peuple ait bousculé l'Europe pour assurer les jouissances d'une poignée d'intrigants. Nous en sommes là. C'est à choisir entre la ruse et la force. Le peuple est las des filous. Si les constitutionnels ne le voient pas, s'ils persistent dans leur bon tour, Bonaparte ou bien tout autre général n'aura qu'à garantir les biens nationaux, à demander compte des droits de l'homme, à crier qu'il réclame au nom du peuple, et tous ces malins seront balayés. Une seule chose peut résister à la force, c'est la justice. Mais pour que le peuple veuille la justice, il faut que les autres commencent à lui rendre tous ses droits. Nous allons voir s'ils auront ce bon sens. » Ainsi parlait le père Chauvel. Mais il faut que je vous avoue une chose, dont je me suis bien repenti plus tard, et que j'aimerais mieux laisser de côté si je ne vous avais promis toute la vérité. C'est qu'après avoir tant souffert dans ma jeunesse, après avoir mendié sur la grande route, gardé les vaches de maître Jean, après avoir traîné la misère de toutes les façons, je me trouvais bien heureux de vivre comme un bourgeois, et que tout ce qui pouvait troubler mes affaires m'indignait. Oui, c'est la triste vérité. Des pains de sucre pendus au plafond de notre boutique, des tiroirs garnis de sel, de poivre, de café, de cannelle, des gros sous et quelques pièces blanches dans le comptoir. Pour un pauvre diable comme moi, c'était extraordinaire. Je n'avais jamais rien espéré de pareil, et d'être assis le soir à ma table, de regarder Marguerite, de tenir mon petit Jean-Pierre qui m'appelait papa, ses grosses lèvres humides sur ma joue. Cela m'attendrissait. J'avais peur de voir déranger cette bonne vie, et rien que d'entendre Chauvel trouver tout mal, crier contre le directoire, les conseils, les généraux, et soutenir qu'il faudrait une seconde révolution pour tout mettre en ordre, cela me faisait pâlir de colère. Je me disais en moi-même. Il en demande trop. Tout va très bien. Le commerce reprend. Les paysans ont leur part. Nous avons aussi la nôtre. Pourvu que tout s'affermisse. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Si les émigrés, les prêtres, essaient de renverser le gouvernement, nous serons toujours là, et nos armées républicaines aussi. À quoi bon s'inquiéter d'avance? Voilà les idées que j'avais. Chauvel le devinait sans doute. Il criait quelquefois contre ces gens satisfaits qui ne s'inquiètent que de leurs affaires, et ne se doutent pas que tout peut leur être enlevé par la ruse. Faute d'avoir exigé des garanties solides, définitives, c'est-à-dire le gouvernement de la nation par elle-même. Je comprenais qu'il me parlait, mais je ne lui répondais pas, et je m'obstinais à trouver tout bien. Pendant ce temps, les victoires allaient leur train. Alors Bonaparte, après avoir détruit l'armée des Piémontais et bousculé celle de Beaulieu, passait le Pô, entrait à Milan, écrasait Wurmser, à Castiglione, Roveredo et Bassano, Alvinzi, à Arcole, Rivoli et Mantoue. L'armée du pape à Tolentino et nous faisait céder Avignon, Bologne, Ferrare et Ancône. Alors, Jourdan et Kléber, après les victoires d'Altenkirchen, d'Oukorat, de Kaldik, de Friedberg, enlevaient le fort de Kunstein et entraient à Francfort. Alors Moreau passait le Rhin à Strasbourg, prenait le fort de Köln, gagnait les batailles de Rhenchen, de Rastatt, d'Ettingen, de Pforzheim, de Neresheim, rejetait les Autrichiens sur Donauwörth et s'étendait en Bavière pour joindre Bonaparte dans le Tyrol. Mais l'archiduc Charles, ayant surpris et écrasé Jourdan à Wurtzbourg, avec des forces supérieures, Moreau fit sa fameuse retraite à travers la Souabe soulevée, livrant des combats chaque jour, enlevant des régiments entiers à l'ennemi, forçant les défilés du Val d'Enfer après une dernière victoire à Biberac et ramenant toute son armée glorieuse à Huningue. Jamais on n'a vu de soldats plus attachés à leur général que ceux de Moreau. C'étaient tous de vieux et solides républicains qui ne se plaignaient pas d'aller pieds nus et se montraient fiers en quelque sorte de leur haillon. Saume en était. Il nous écrivit alors quelques mots dont Chauvel fut attendri. « Ceux-là, disait-il, sont encore des bons. On n'a pas besoin de leur parler de plaines fertiles, d'honneur et de richesse. » Et ce qui le faisait rire, c'est que Saume admirait surtout la pipe dont Moreau fumait toujours et tirait de grosses bouffées pendant les combats. Lorsque l'affaire était bien chaude, les bouffées se suivaient coup sur coup. Quand elle se ralentissait, la pipe devenait aussi plus calme. Quel enfantillage! Mais les bonnes gens s'étonnent de tout. Ils en font de grandes histoires et ne parlent pas de leur propre héroïsme.